Philippe de Mester, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général de l'Agence régionale de santé. Merci d'avoir accepté l'interview d'Alpe 1 ce matin. Si je vous dis aujourd'hui désertification médicale, qu'est-ce que vous me répondez ?
C'est une réalité, surtout dans nos Alpes. Nous avons effectivement, on constate qu'il y a un vrai problème de recrutement de médecins pour remplacer les médecins qui partent en retraite. Et il se trouve que nous sommes dans une période où le corps médical est assez âgé et donc il y a beaucoup de départs en retraite et beaucoup de difficultés pour recruter et trouver des remplaçants. Alors pour ça, bien sûr, on ne reste pas inerte, hein, c'est-à-dire que on a une politique d'accompagnement des candidats à l'installation, de création de maisons de santé pluriprofessionnelles, de communautés professionnelles de santé pour rendre, si vous voulez, l'exercice libéral dans les zones rurales et les zones de montagne plus attractives.
Sauf que ces politiques d'accompagnement ne suffisent pas aujourd'hui. Des zones rurales ne sont plus assez attractives pour ces jeunes médecins qui n'ont pas forcément envie d'y venir. Il y a plusieurs problématiques qui sont avancées aujourd'hui. Il y a notamment le fait que c'est éloigné, que c'est mal desservi au niveau transport. Et puis, ce sont souvent des personnes qui ont un compagnon, une compagne. Et là aussi, il faut que ce compagnon ou cette compagne trouve un travail, ce qui est compliqué.
Ce sont des réalités auxquelles nous sommes confrontés, sur lesquelles je n'ai qu'une part de prise. Hein. Je ne peux pas régler toutes ces questions. Mais en même temps, on voit bien qu'on réussit quand même. Hein, on a des succès, hein, par rapport à cette politique d'incitation à l'installation. Ainsi, on a pu recruter sur Guillestre un jeune médecin qui s'est installé. D'abord, dans le cadre d'une politique qu'on a appelée 400 médecins, donc recrutés par l'hôpital de Briançon. Et maintenant qui a décidé, après quelques mois, compte tenu du caractère très positif de cette première implantation, de s'installer en libéral et d'ouvrir son cabinet. Donc on a quand même des succès. Là, on a des projets également dans les Alpes-de-Haute-Provence sur Valensole, sur Ries, sur également Moustier-Sainte-Marie. Bien sûr, c'est difficile, mais on s'y attelle et on réussit petit à petit quand même à trouver des réponses. C'est pas facile, hein, mais je veux dire, on a quand même quelques résultats.
Parlons de problématiques qui actuellement et depuis plusieurs mois agitent les Alpes du Sud. Je parle notamment des urgences de Sisteron. Depuis le mois de juillet, les mobilisations se poursuivent chaque lundi. Pour rappel, au niveau du contexte, ces urgences sont fermées désormais la nuit, 7 jours sur 7, puisqu'il n'y a plus assez de médecins urgentistes. L'ARS a proposé un point, c'est de mutualiser les centres 15 entre les Hautes-Alpes et les Alpes-d'Haute-Provence pour récupérer dans un département un médecin urgentiste et dans l'autre département un autre médecin urgentiste. Mais finalement, c'est quand même déshabiller Pierre pour habiller Paul.
Non, pas du tout. Alors d'abord, oui, nous avons un grave problème de pénurie de médecins urgentistes et ceci, pas seulement à Sisteron ou dans les Alpes du Sud. C'est un problème général. C'est un problème général. Et donc, on a partout des difficultés. Mais là où les difficultés sont plus aiguës, c'est quand on a des petits effectifs sur des petits services d'urgence. Parce que, évidemment, là, on a eu un concours de circonstances, un départ, un congé maladie. Et voilà, on s'est retrouvé dans l'impossibilité de faire fonctionner le service d'urgence, la nuit uniquement, je le dis bien, les urgences ne sont pas fermées, et la nuit, il y a toujours un médecin urgentiste qui est présent à Sisteron, c'est celui qui assure le SMUR, qui est susceptible de pouvoir aller à la rencontre d'une personne qui a un grave problème de santé à bord du véhicule du SMUR, et éventuellement de traiter aussi quelques affaires quand il est à l'hôpital. Hein. Donc, ça n'est pas une situation où on a complètement découvert Sisteron, mais c'est une situation qui est dégradée par rapport à la situation idéale qui serait d'avoir un médecin présent et un autre qui est susceptible de partir pour le SMUR, sachant que le nombre d'interventions la nuit est quand même très, très limité.
Mais cette situation devait être temporaire, en tout cas elle a été présentée comme telle par la direction du CHICAS.
Bien sûr, et moi c'est ma volonté aussi, pas seulement la direction du CHICAS, donc nous sommes toujours en recherche active de médecins et je ne désespère pas que nous réussissions à trouver une solution. Nous avons déjà quelques pistes, mais elles ne pourront pas être effectives tout de suite, mais nous avons des pistes. Donc on aura, je l'espère, je le souhaite, et j'ai quelques raisons de penser qu'on pourra, d'ici quelques temps, revenir à une situation normale sur Sisteron. Le procès qui m'est fait de vouloir absolument fermer, etc., tout ça, ce sont des bêtises. Le projet, c'est effectivement de conserver une bonne couverture d'urgence.
Les urgences de Sisteron ne fermeront pas.
Mais non, bien sûr que non. Elles ne sont pas fermées, elles ne fermeront pas. En ce qui concerne la mutualisation des deux santé, que, effectivement, le fait de pouvoir, la nuit, hein, là aussi encore, uniquement la nuit, compte tenu de la faible activité qu'il y a sur les deux départements, hein, la nuit, de les faire travailler ensemble, permet effectivement d'économiser un petit peu de temps médical. Et donc, faire face à cette pénurie, si vous voulez, cette pénurie, elle est là, c'est une réalité sur laquelle je ne peux pas, par un coup de baguette magique, créer des médecins urgentistes. Les médecins urgentistes, ça nécessite une spécialité, c'est quelque chose qui nécessite une compétence. Donc, nous n'en avons pas
cette actuellement. Cette pénurie, elle s'explique par quoi? Parce qu'on en a déjà parlé pour Embrun, notamment.
Oui, bien sûr. Ben oui, parce que le problème s'est posé aussi. On a réussi à le régler sur en ce qui concerne les urgences d'Embrun. C'est une réalité. Pourquoi? Parce que nous avons globalement un manque de médecins et des choix de spécialités qui n'orientent pas prioritairement les jeunes qui sont au moment de choisir leur spécialité, ne les orientent pas prioritairement vers la spécialité d'urgentiste.
Vous disiez, j'ose espérer quand même que cette situation assisteront, va se régler, vous fixez une date?
Pour l'instant, non, je ne peux pas encore vous donner une date, mais nous avons quelques perspectives.
Et quelles sont ces pistes?
Je n'irai pas plus loin pour l'instant, pour ne pas créer de faux espoirs, parce qu'on ne sait jamais.
Mais en tout cas, cette campagne de recrutement, ça ne marche pas.
Elle ne marche pas. Si, nous avons des pistes, mais qui ne pourront pas être effectives immédiatement. Mais nous avons des pistes, donc ne dites pas qu'elles ne marchent pas. Nous sommes en train de trouver des solutions, mais je vous dis, je reste pour l'instant prudent, parce que tant que les choses ne sont pas certaines, je ne veux pas donner de faux espoirs.
Que peut-on dire aujourd'hui de cette crise des blouses blanches qui s'est installée partout en France, hein, y compris en région Provence-Alpes-Côte d'Azur?
Eh bien qu'il y a effectivement un malaise et une difficulté à l'hôpital, parce que l'hôpital a connu depuis plus de 10 ans des restrictions de moyens qui font qu'aujourd'hui la situation est très très tendue dans les hôpitaux, ce qui provoque une certaine lassitude, un certain découragement, un certain malaise. Et donc c'est justement un des objets du plan hôpital, c'est de faire en sorte qu'on redonne de l'attractivité aussi bien pour les personnels médicaux que pour les personnels soignants, grâce à des mesures financières qui accompagnent, en donnant aussi des moyens supplémentaires à l'hôpital pour qu'il puisse retrouver une nouvelle impulsion, pouvoir réinvestir, pouvoir se développer de nouveaux projets. Et donc, c'est l'objet même du plan hôpital qui a été annoncé la semaine dernière par le Premier ministre et la ministre de la Santé.
Un plan de 1,5 milliard d'euros de budget des hôpitaux sur les 3 prochaines années. Certains élus se sont félicités dans les Alpes du Sud. C'était notamment le cas d'Emmanuel Fontaine Domézel, la députée des Alpes-de-Provence. D'autres ont été déçus. Ça a été le cas de Chantal Emeaud, la vice-présidente de la région PACA et maire d'Embrun. Ce qu'elle regrette, et je la cite, ce sont des primes accordées mais uniquement au personnel de la région parisienne, ce qui va agrandir la fracture entre Paris et le reste de la France et ne réglera pas justement l'attractivité des hôpitaux dans les milieux ruraux.
Écoutez, je ne sais pas, elle m'en a pas parlé. Moi, au contraire, elle m'a dit qu'elle était très satisfaite des perspectives que pouvait offrir ce plan pour l'hôpital d'Embrun. En ce qui concerne les primes, bon, bien sûr, il y a une situation tout à fait exceptionnelle en région parisienne. Actuellement, il y a une désaffection très importante qui a amené à la fermeture de 1500 lits en région parisienne, à Paris, dans la petite couronne. Donc il y a un vrai problème de santé publique qu'il fallait, par une mesure très ciblée, très pragmatique, régler. C'est ce qu'a décidé la ministre. Comme elle ne pouvait pas tout faire, eh bien, elle a dit, là, à Paris, il y a une situation qui devient extrêmement grave, extrêmement préoccupante, il faut faire quelque chose, et elle a décidé de faire cela.
Et Chantal Emeaud, toujours, a alerté sur la nécessité de doter le centre hospitalier d'Embrun d'un scanner. Ça fait des années qu'elle se bat pour cet appareil. Et de ne supprimer aucun de ces lits. Est-ce que sur l'un des deux points, vous pouvez la rassurer?
Il n'y a jamais eu une intention de supprimer des lits à l'hôpital d'Embrun. La question, c'est simplement de déménager le service de soins de longue durée pour les personnes âgées qui actuellement se trouvent dans des locaux qui sont vétustes et même dangereux en raison de leur non-conformité par rapport aux règles de sécurité. Donc on a une opportunité de pouvoir les mettre dans des locaux qui sont de meilleure qualité.
C'est l'EHPAD Louvillage, c'est ça?
À Louvillage, qui soit à quelques centaines de mètres de l'hôpital, il ne s'agit en aucune façon de supprimer des lits, premièrement. En ce qui concerne le scanner, là aussi je m'en suis entretenu avec elle, pour avoir un scanner, il faut avoir des radiologues et il faut avoir des manipulateurs. Donc pour l'instant, il n'y a aucune ressource ni d'un côté ni de l'autre. Si un jour on peut installer un scanner, il faudra qu'on modifie bien sûr notre carte sanitaire au niveau de la région. Et ensuite, il faudra qu'on voit dans quelle mesure une collaboration entre le public et le privé serait opportune. Parce qu'évidemment, un scanner à Embrun, vu le niveau d'activité de ce petit hôpital, ne se justifierait pas pour l'hôpital seul. Hein, si on veut offrir une possibilité d'avoir accès à un scanner, il faudra peut-être voir aussi pour des soins de ville.
Par rapport à Embrun, justement, vous parliez, hein, vous le disiez, on parle bien d'un déménagement de 15 lits d'unités de soins longue durée sur l'EHPAD Loup Village. Vous le dites, c'est bien temporaire, ça veut dire qu'ils reviendront ensuite sur le centre hospitalier d'Embrun ?
L'EHPAD Loup Village, c'est l'hôpital d'Embrun, hein, c'est la même maison. Hein.
Oui, mais ce que disent aujourd'hui les syndicats, notamment la CFDT Santé Sociaux, c'est que l'EHPAD n'est pas adapté, en tout cas aux personnes qui sont suivies, des personnes âgées de plus de 60 ans, qui demandent des moyens médicaux beaucoup plus lourds, beaucoup plus importants que ce qui est proposé dans l'EHPAD.
Oui, bien sûr, c'est ce qu'on appelle l'USLD, une des soins longue durée, qui va être transférée avec les moyens médicaux qui correspondent. Oui, donc ils ne vont pas être traités comme s'ils étaient en EHPAD, mais comme s'ils étaient en unité de soins longue durée.
Donc la CFDT Santé Sociaux agite une peur qui n'existe pas. On parle bien d'un déménagement avec les moyens actuels dans une autre structure.
Évidemment, oui. Mais s'ils préfèrent qu'on les laisse dans des locaux dangereux, il faut qu'ils me le disent.
Dernière question. Vous parliez de ce mal-être. Vous l'avez dit, j'en suis conscient, qu'il y a une crise aujourd'hui des blouses blanches. Est-ce que, Philippe de Mestère, vous êtes confiant pour la suite ?
Moi, ce que je peux vous dire, c'est que avec mon équipe de l'ARS, nous sommes complètement mobilisés pour mettre en œuvre le plus vite possible les dispositions de ce plan pour améliorer le quotidien. Donc de mettre en œuvre le plus vite possible ces dispositions pour apporter du mieux-être pour les personnels, de meilleure qualité de vie au travail. Donc ça, on le fait. Est-ce que ça va régler tous les problèmes ? Je n'en sais rien, on verra bien. En tout cas, une amélioration, j'en suis certain.
Mieux-être, ça veut dire plus d'effectifs ?
Quand c'est nécessaire, ça n'est pas exclu, parce que avec une mesure importante du plan hôpital, qui est donc la reprise de la dette des hôpitaux, un tiers de la dette va être repris, qui représente 10 milliards, puisque l'hôpital, c'est 30 milliards de dettes actuellement. De libérer ainsi les hôpitaux va leur donner une capacité à agir. Donc cette marge de manœuvre, elle pourrait être utilisée pour réinvestir là où il faut investir parce qu'il y a manque de matériel ou vétusté des locaux. Elle peut aussi, lorsque un service se trouve en difficulté parce qu'il manque de lits ou parce qu'il manque de personnel, de pouvoir corriger les choses.
Merci beaucoup Philippe de Mestère. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur. Merci.
Merci beaucoup.